When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Chasseur me tuera, lapin intriga, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Pour ce 20e épisode, je suis allée à Rouen à la rencontre de Marie. Marie est la maman d'un petit garçon qui a 2 ans aujourd'hui, mais dont la vie a failli basculer à l'âge de 6 mois lorsqu'il a été secoué à 2 reprises. Oui, secoué. Un sujet encore tabou car douloureux et inimaginable, mais pourtant bien réel. Dans cet épisode, Marie nous raconte comment se sont déclarés les premiers symptômes, comment elle a réagi quand elle a compris que quelqu'un avait fait du mal à son bébé, et toute la procédure judiciaire qui s'en est suivie. Bonne écoute! Bonjour Marie, merci d'avoir accepté de partager ton histoire dans Le Tourbillon.
Merci à toi.
Alors tu es la maman d'un petit garçon et belle-maman d'un autre petit garçon. Quels âges ont-ils ?
Alors le grand va avoir 9 ans et donc mon petit garçon vient d'avoir 2 ans.
Est-ce que tu as toujours voulu être maman ?
Oh bah oui, comme plein de femmes, je me suis toujours dit qu'un jour je serais maman. J'ai pris le temps de profiter, de vivre et tout ça avant d'en avoir un. Mais ouais, c'était un souhait.
Et alors comment s'est passée ta première grossesse ?
Bah plutôt bien, figure-toi, parce que quand on a pris la décision avec mon mari, j'ai arrêté du coup tout moyen de contraception et je suis tombée enceinte 3 semaines après. Alors qu'on m'avait dit que ça allait être compliqué, j'ai eu un parcours médical particulier et on m'avait dit le jour où vous voudrez un enfant, ça va être long, pas sûr que vous meniez la grossesse à terme. Du coup, j'étais assez inquiète et finalement, il est arrivé à 40 semaines. On m'avait dit attention, à partir de 32 semaines, ça va être compliqué. Finalement, il est arrivé à terme, donc écoute, c'était parfait. Pas idyllique non plus, hein, aucune grossesse ne l'est, mais en tout cas c'était que du bonheur et il est arrivé en pleine forme.
Après ton congé maternité, toi tu as pris un congé parental ?
Oui, relativement court en fait, parce que du coup je me disais le congé maternité c'est trop peu, mais je voulais pas prendre un trop long congé parental non plus, bah parce que comme beaucoup de personnes, financièrement ça aurait été compliqué. Donc j'ai repris le travail quand Erwan avait 6 mois. Comme ça, j'ai pu m'occuper de lui. Il avait quand même des RGO, donc je l'ai en pleine santé, mais c'est quand même très contraignant, les régurgitations internes, œsophagite aiguë, etc., à la totale. Donc au moins, les 6 mois, ça nous a permis d'être avec lui jusqu'à la diversification et de nous occuper de lui du mieux possible, quoi.
Et alors, à ce moment-là, ton chéri et toi, vous devez trouver un système de garde, hein, comme c'est souvent le cas. Est-ce que vous avez fait une demande en crèche ou vous avez tout de suite opté pour une nourrice ?
Alors à l'époque, on se posait la question pendant ma grossesse, parce que moi c'était un souhait que de reprendre mon travail aussi après. Et puis les crèches dans notre secteur, c'est relativement bouché, les listes d'attente sont très longues, et on avait cette chance à l'époque de nous dire que dans notre entourage, il y avait des assistantes maternelles. Et puis l'une de nos connaissances, justement, un mois avant que j'accouche, nous a dit qu'elle aurait une disponibilité pour reprendre Erwan. Donc nous, là, c'était génial. On s'est dit, on va laisser notre fils à quelqu'un qu'on connaît. Du coup, certainement moins de traumatisme de nous poser des questions vis-à-vis de la personne à qui on allait le laisser par rapport à d'autres parents. Là, il n'y avait pas cette personne inconnue, justement. On était rassurés à l'époque de nous dire qu'on la connaissait. Et puis, du coup, elle nous a dit justement qu'elle serait disponible, mais qu'à partir de septembre. Donc on s'est dit, bah parfait, je vais prendre un congé parental, c'est comme ça que c'est décidé d'ailleurs. Ouais. Ça me permettra de rester plus longtemps avec mon bébé, et puis au moins d'être sûre que ce soit elle qui garde notre fils.
Et alors, comment tu te sentais par rapport à la séparation le matin ? C'est souvent difficile pour les mamans qui laissent leurs enfants.
Ouais, c'était compliqué, c'était surtout pour le papa aussi. Et c'était compliqué parce que c'est une grosse transition quand même. Même si nous, quelque part, on était rassurés encore une fois par rapport à la personne qui le gardait, mais de se dire, mince, c'est plus moi qui vais m'occuper de lui tout le temps. Toutes ces choses que j'avais mis un peu de côté avant pour pas me tracasser, là, je me disais, waouh, en fait, il passe ses journées avec quelqu'un d'autre que moi. Elle est rémunérée pour, c'est son métier et tout ça, mais c'est difficile, en fait, dès lors où on ferme la porte, on ne sait pas ce qui se passe. Et j'ai commencé à ce moment-là à avoir voilà, certaines, bon, on ne va pas dire angoisse, le mot est fort, mais certains tracas de me dire, tu te rends compte, tu étais sur la route toute la journée parce que de par mon métier, j'y suis souvent. Et en fait, lui, pendant ce temps-là, bah, il vit sa vie, mais sans toi. Et ça, c'est un petit peu dur. Mmh. Puis mon mari, effectivement, lui qui était plus du style, arrivait un peu plus tôt que l'heure prévue pour le récupérer ou des choses comme ça. C'est beaucoup lui qui s'est occupé d'amener Erwan chez la nourrice ou d'aller le récupérer parce que ses horaires de travail, en fait, le rendent plus disponible que moi. Enfin, le rendaient plus disponible que moi. Mais c'était pas évident. En plus, ça, bon, ça n'a pas duré très longtemps, cette expérience. Mais ouais, j'ai un souvenir de ça, de me dire, est-ce que t'as pris le bon choix, en fait, de ne prendre qu'un si petit congé. Mmh. Financièrement, oui, mais sentimentalement, c'était pas sûr de moi. Mais bon, voilà, je pense que c'était le temps qu'on trouve chacun nos marques, mais pas facile.
Et du coup, comme tu le disais, ça a duré à un très court terme.
Oui, 10 jours.
Ça a duré 10 jours. Tu t'es aperçue en fait qu'il y avait un souci, ton fils était malade.
Oui, ça a commencé comme ça, effectivement, on l'a trouvé changé, un changement de comportement très rapidement. Bon, on s'est dit, il a un changement de rythme de vie, on le lève le matin, et puis il a commencé à faire ses nuits. Alors ça inquiète pas forcément les parents, justement, on se dit, bah tant mieux, ça lui va bien en fait d'être gardé, il faisait pas ses nuits, et puis là il a commencé à les faire. C'est un bébé qui était très très dynamique, voilà, on le voyait partout où il était, on le voyait, on l'entendait, il passait pas inaperçu. Et là, il était beaucoup plus discret, beaucoup plus posé. Et puis, ben, très rapidement, il a commencé par contre à être de plus en plus mou, avant qu'apparaissent des vomissements, ce genre de choses. Et au début, on a juste pensé à un changement de comportement. Très rapidement, on l'a emmené voir le médecin parce qu'il y avait eu un premier vomi, donc nous, on pensait à une gastro, hein, tout simplement, comme je pense tout le monde. Et c'est d'ailleurs ce qui a été diagnostiqué. On nous a dit un virus. Donc à l'époque, ça m'a mis un petit peu en rogne quand même, parce que c'est la première fois qu'il était malade. Je me suis dit, virus, voilà, c'est un endroit où on met toutes les pathologies qu'on ne connaît pas. C'est un virus, on ne sait pas comment ça soigne, il faut attendre. Et puis, bah, en fait, ça s'est très vite transformé en quelques jours, en allant à l'hôpital, en rentrant à la maison, en nous remettant nous aussi en question, parce qu'on nous laissait comprendre qu'on était trop flippés comme parents. Et puis bah, très, très vite, en fait, on a dû retourner en urgence parce que c'était beaucoup plus grave que ce que tout le monde avait pu penser.
Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous alliez en urgence?
Bah, comme je te le disais, ces vomissements en G qui auraient pu être apparentés à une gastro pour des gens comme nous, novices, qui ne sommes pas du milieu médical. Et bah, tous les symptômes liés faisaient qu'on se disait c'est plus grave. Un virus, ça ne rend pas un bébé sans énergie, qui se nourrit à peine, enfin... Il y avait quelque chose que même à aujourd'hui, je ne saurais pas te décrire. Quelque chose qui me rendait mal. Mais mal plus que ce que j'aurais dû être si mon bébé était malade. Donc je ne sais pas si on a un sixième sens en tant que maman, je ne saurais pas te le dire. Et mon conjoint, je me rappelle, m'a dit « Mais non, mais attends, enfin, il est malade. » Et moi, en pleine nuit, du coup, j'ai décidé, vers 5h du matin, j'en pouvais plus de le voir comme ça. Je dis « Écoute, moi, ça m'inquiète. Le médecin, il est gentil, mais je veux un avis médical autre. » Donc je l'ai emmené aux urgences du CHU de Rouen. Et effectivement, sur place, on m'a laissé sous-entendre aussi que j'étais une maman flippée. Donc bon, petit coup dans notre ego de se dire « mince, on est vraiment flippée à ce point-là ». Enfin, mais je ne reconnaissais pas mon bébé et ça m'inquiétait en fait. Et maintenant, c'est justement ce que je me dis, il faut que chaque maman, quand elle ne reconnaît pas son enfant, s'écoute. En fait, c'est la base de la maternité, de s'écouter encore et toujours. Et puis, bah, je l'ai ramené à la maison, j'ai appliqué les consignes qu'on m'a dit. Donc j'ai prévenu la nourrice que je ne le mettrais pas en garde. J'ai prévenu mon boulot le matin très tôt, que j'avais demandé un certificat pour justifier que j'avais passé une bonne partie de la nuit là-bas. J'ai dit, je reste auprès de mon fils, enfin, voilà, il a besoin de moi. Et toute cette journée-là, il n'était pas vraiment là. Il était dans mes bras, je le mettais d'un côté, il chouinait, je le remettais de l'autre. On avait déplié le canapé, comme ça on s'était fait une espèce de cabane ensemble, en fait, où bah, j'essayais de l'accompagner du mieux possible. Et puis j'étais un peu flippée quand même. Et le fait d'être très proche de ma famille, ça m'a permis aussi bah, d'envoyer des petites photos, des vidéos, de leur exprimer un peu mon inquiétude, jusqu'à ce qu'on me dise, tu sais, tu devrais le emmener quand même aux urgences. Au téléphone, on m'a dit à deux reprises que c'était pas la peine de l'emmener. Et du coup, j'ai trop attendu. Enfin, trop attendu. Il est là et bien portant aujourd'hui, donc je vais pas dire que j'ai trop attendu, mais j'aurais pas dû écouter leurs consignes par téléphone sans voir mon enfant, ils pouvaient pas savoir. Et c'est le pédiatre que j'ai appelé en lui demandant « Est-ce que vous avez eu d'autres parents qui vous ont signalé ce genre de symptômes ?» On m'a dit un virus, mais ça me paraît bizarre. Et en fait, pendant que j'avais le pédiatre au téléphone, Erwan est revenu un peu à lui. Et en me regardant, il a un de ses deux yeux qui est rentré vers l'intérieur et qui est resté bloqué. Donc la scène s'est produite en direct pendant que j'étais au téléphone avec le pédiatre. Du coup, il a entendu mes émotions, ma peur et tout ça. Et là, il m'a dit « Mais il vomit depuis combien de temps ?» Donc je lui ai expliqué. Il m'a dit « Vous allez tout de suite au CHU, vous dites que vous venez de ma part. » Et là, ça a été bah, la dégringolade, parce que c'est en arrivant qu'on a compris que c'était très lourd et très compliqué ce qui se passait. On nous a parlé de scanner, on nous a parlé d'IRM. et très rapidement nous a parlé du cerveau.
Est-ce que ils vous ont dit tout de suite ce qui se passait, ce qui avait pu se passer?
Non, parce qu'en fait, dans les premiers temps, même eux, forcément, là, ils ont dû penser au syndrome du bébé secoué, mais on pouvait pas savoir. Donc on nous a dit, est-ce qu'Erwan est tombé? Du coup, je dis, non, pas à ma connaissance. Alors tout de suite, tu demandes à ton mari, il est tombé quand t'étais avec lui. Enfin, tu deviens une lionne, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on m'a pas dit, quoi? Je dis, écoutez, je sais pas, j'avais pas eu d'infos. Je sais juste qu'il était hypotonique chez la nourrice parce qu'elle m'a dit qu'il était en mode zombie. Donc ça, c'était... Alors, on ressort les SMS, on essaye de se dire c'était quand, qu'est-ce qui s'est passé, parce que tu sais plus trop comment tu vis quand c'est comme ça. Et puis à côté, t'as ton bébé qui est là, qui va pas spécialement bien, mais tu comprends pas trop ce qui se passe. Je leur dis, non, il n'est pas tombé, il a un grand frère aussi qui lui faisait beaucoup de câlins et tout, et moi directement, je me suis dit, mon Dieu, si ça se trouve, il l'a fait tomber, il n'a pas voulu nous le dire, il a eu peur. Bon, du coup, mon mari, pas content que je puisse penser ça, enfin bon, c'est assez compliqué. Et en fait, très rapidement, il y a un examen qui est fait par un ophtalmologue, si tu veux, et il regarde en fait ses yeux, avec des appareils bien spécifiques, et là, il nous dit, il y a des hémorragies rétiniennes. Ça veut dire qu'il y a de présence de sang derrière les yeux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On comprend pas à ce moment-là. Et là, du coup, on nous dit ça peut pas être lié à une chute. Une chute, de toute façon, ça n'occasionne pas ce genre de séquelles. Bon. Et là, on nous dit, est-ce que l'un de vous a fait du mal à Erwan, l'a secoué, même si vous l'avez pas fait exprès? Du coup, je me dis, l'a secoué. Tu comprends pas, en fait, t'assimiles pas. Non, je l'ai pas secoué, mais vous appelez quoi secouer? Pendant longtemps, en fait, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Donc, du coup, je leur ai dit, avec l'RGO, j'ai dansé avec lui. Comment vous le faisiez roter? Tu fais voir. Puis, en fait, maintenant, j'en rigole. Parce que je sais très bien maintenant que ça ne peut pas occasionner ces séquelles-là. Et heureusement, d'ailleurs, qu'en faisant roter un enfant, tu peux pas occasionner ça. Mais tu dis, si ça se trouve, en jouant avec lui, je lui ai fait du mal. Tu comprends pas. Le personnel médical voit que tu comprends pas non plus, et puis c'est pas la priorité. La priorité, c'est quand même aussi de sauver un enfant dont le pronostic vital est engagé, parce que c'était le cas. Donc on est arrivé aux urgences à midi, et il a été opéré en urgence dans la nuit, aux alentours de 2h du matin. Pendant tout ce temps-là, il a fallu en fait faire tous les examens qui permettent de diagnostiquer le syndrome du bébé secoué. Il y a tout un tas d'examens précis, donc à commencer par ce que je te disais, d'examiner du coup les yeux. Ensuite il y avait un truc qui était visuel qui leur tendait à croire que c'était ça, c'est qu'en fait sa fontanelle était complètement bombée, on voyait les battements du cœur en fait par la fontanelle, et ça en fait c'est ce qui lui a sauvé la vie, parce que sur un enfant plus grand où la fontanelle est fermée, ben, en fait du coup le cerveau aurait donc touché directement les parois, et en fait ça aurait pu le tuer ou le rendre handicapé à vie. Et là en fait l'hypertension intracrânienne a permis quand même d'attendre qu'il lui administre certains, alors je ne suis pas du tout du milieu médical, mais certains produits qui ont permis de diminuer un peu cette tension et de gagner quelques heures pour passer le scanner, pour passer l'IRM. Là, on nous a fait voir des images que je n'interprétais pas du tout, je ne comprenais pas. Et on m'a dit, tout ce que vous voyez là, ce sont des hématomes sous-duraux. En fait, votre fils a du sang dans la boîte crânienne qui n'a pas du tout sa place ici. Et vu la collection d'hématomes, du coup, il a été secoué, il a été violemment secoué. Et là, du coup, c'est moi qui étais secouée, c'est moi qui me suis pris une percute. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, de toute façon, c'est pas ta priorité à ce moment-là, parce que t'as envie de tout péter, t'as envie de comprendre, mais tu te dis, merde, il est quand même lui très mal. Donc, c'était lui la priorité. Jusqu'au lendemain, où là, tu te dis, il est vivant, il est porteur d'une dérivation interne pour évacuer le sang. Et là, t'es seul face à tes idées, tu te dis, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Et qui a fait du mal à mon fils? Et c'est là en fait où tout commence à dérailler un peu en toi.
Et alors qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe?
Tu fais en sorte de rester le plus possible éloigné de tout le monde, parce que tu deviens très irritable. Ce qui me semble être humain, c'est que tout le monde est coupable dans ta tête. Ça peut être n'importe qui. Parce que tu te dis, t'as beau aimer ton conjoint, t'as beau adorer ton beau-fils, t'as beau adorer ta mère, tu dis n'importe quelle personne à qui j'ai laissé mon bébé potentiellement a pu lui faire du mal. Et là, du coup, t'as mal au ventre et t'as envie de vomir tout le temps. Tu te dis, mais j'aime tout le monde, j'ai confiance en tout le monde. Quel est celui qui a fait du mal à mon bébé? Là, tu pars en guerre dans ta tête. Tu sais pas trop encore ce qui se passe, parce qu'on l'a su par la suite. En fait, Erwan a été victime de secouements à deux reprises. Ça a été dit après, de plusieurs mois après, par des expertises médicales. C'est plus très très clair dans mon esprit, étape par étape, mais... Très rapidement, en fait, on a vu aussi que dans nos proches, ou en tout cas dans les personnes qui gardaient Erwan, qui étaient à son contact, la nourrice, son mari, etc., n'ont plus donné de nouvelles. On leur a dit qu'on était à l'hôpital, on les a tenus informés. Et dès lors où j'ai dit apparemment c'est grave, il s'agirait d'une maltraitance, je donnais les informations, en fait, un peu bêtement, parce qu'après la police m'a dit que j'aurais pas dû faire comme ça.
Ah oui.
Mais comme du coup elle savait qu'Erwan était malade et que je l'emmenais au CHU, que je lui avais pas confié, je lui ai dit écoute, apparemment c'est grave, c'est le cerveau. En fait, moi j'envoyais des grands messages en donnant des informations et je recevais juste deux matins de suite salut, comment va Erwan ? Et puis bah, après, quand j'ai dit bah, c'est grave, il va y avoir une enquête, apparemment une enquête sociale et peut-être une enquête judiciaire, enfin je donnais les informations qu'on me donnait au fur et à mesure, et ça c'était au moins de 48 heures après, et en fait j'ai plus du tout eu de nouvelles. Plus du tout de réponse à mes messages. Et d'ailleurs, à aujourd'hui, je n'ai jamais eu un seul message, rien du tout pour savoir comment allait mon fils. Et voilà, donc après, on n'est pas à ce stade de l'enquête pour savoir qui réellement a secoué Erwan. C'est ce qui fait partie de nos traumatismes aussi. Nous, voilà, on a pu depuis se faire une idée quand même, et on a orienté la police en ce sens avec de nombreux éléments d'enquête. Maintenant, bon, on n'est pas la police, on n'est pas le procureur, on n'est pas tout ça, donc ça se fera avec le temps. Donc du coup, Erwan est vivant, donc c'est tout ce qui compte. Ils l'ont opéré, ils l'ont sauvé, on nous avait annoncé qu'il était en train de mourir. On est allé en salle de déchocage parce que les battements de son cœur diminuaient de plus en plus. Donc on nous a dit, bon, ça va être impressionnant, mais on y va. À ce moment-là, donc, il y avait mon mari, ma maman et moi. On était assez nombreux pour tout écouter parce que c'est très compliqué, t'assimiles pas les informations, tu comprends pas. Moi, j'ai réagi de manière très particulière, c'est-à-dire que je pouvais pas m'occuper d'Erwan. Je n'arrivais même pas à le tenir dans mes bras. J'étais, je sais pas, émotionnellement très, très tendue, très... Et en fait, je voulais pas qu'il ressente ça. On me disait, mais faites-lui un câlin, chantez-lui des chansons. Pas du tout. Déjà, je suis de naturel assez speed. Et là, du coup, j'étais tellement pas bien. Je me suis dit, mon Dieu, il va ressentir ma détresse. Là, il a besoin de moi. Et à ce moment-là, ma mère a joué un rôle très important. Depuis, de toute façon, de toute ma vie, elle a joué un rôle important. Mais depuis que j'ai commencé cette aventure de la maternité, elle était là pour m'écouter, pour me relayer aux besoins. Et là, ce jour-là, ben, elle a pu tout écouter. Alors, en tant que grand-mère, c'est extrêmement difficile pour elle. Double peine, hein, son petit-fils et sa fille, et aussi son gendre qu'elle aime énormément. Et mais elle, au moins, elle entendait avec peut-être davantage d'écoute ce que disait le corps médical. Et elle a su, en fait, à un moment me dire « Tu sors de la pièce, tu t'en vas. » Parce que j'en pouvais plus, je devenais hystérique. Du coup, j'ai pu sortir, m'aérer l'esprit à l'extérieur, prévenir aussi certains proches de la gravité de la chose. Et du coup, elle s'est beaucoup occupée d'Erwan à ce moment-là. Et moi, ça m'a permis, en fait, de réfléchir un peu et de me dire « Mais il faut que je trouve. Il faut que je sache ce qui est arrivé à Erwan. » Donc ça a été, pendant de nombreux mois derrière, ce qui m'a tenue éveillée toutes les nuits. Il faut que je trouve. Donc je me suis improvisée inspectrice, je me suis improvisée brigadier. Enfin, je me suis dit, forcément, je peux pas moi-même aller mener des interrogatoires parce que je savais pas aussi comment j'aurais obtenu des aveux sans tomber dans des actes gravissimes. Et c'était ça. C'est un sujet qui est assez tabou, mais je pense que c'est important de le dire aussi, c'est que n'importe quelle personne qui prend connaissance d'une histoire comme ça se dit « Mais moi, je vais le tuer. La personne qui a fait du mal à mon enfant, je le tue. Bah, » Bien évidemment, c'est ce qu'on ressent. Bien sûr, ce serait mentir que de dire « Non, non, à aucun moment. » Et c'est justement ça qui a été compliqué, c'est de se dire comment on vit avec des émotions qu'on n'a jamais ressenties de notre vie, parce que le dire, c'est facile. Mais le ressentir et le penser, et ne penser qu'à ça jour et nuit, et réussir à ne pas passer à l'acte, c'est un combat contre nous-mêmes permanent. Et en plus, on ne le vit pas seul, on le vit aussi avec son conjoint, avec son papa, avec ses beaux-frères, avec n'importe quelle personne qui aime l'enfant. Et du coup, il faut se raisonner les uns les autres. Enfin, ça paraît tout bête, je pense que je peux le dire ouvertement, parce que ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais, mais on a eu des discussions sérieuses où on s'est dit, bah, écoute, c'est pas toi qui vas le faire, c'est moi. Comme ça, toi, tu vas t'occuper d'Erwan, moi, de toute façon, je pourrais pas vivre avec ça, donc je vais le faire et je vais me suicider derrière. Ou alors des discussions avec des personnes plus âgées de ma famille qui aiment énormément Erwan et qui nous aiment beaucoup, qui nous ont dit les enfants, moi ma vie elle est derrière moi, donc vous vous occupez de vous, vous occupez du petit, et c'est moi qui vais passer à l'acte. Donc voilà, des choses assez lourdes comme ça, alors ça c'est vraiment dans les premiers temps, mais parce qu'on s'est dit de toute façon on peut pas laisser ça impuni. Donc c'était de la vengeance à ce moment-là, sauf que la vengeance elle n'amène rien de bon, la vengeance elle permet pas aussi de s'occuper d'un petit garçon qui a réussi à survivre à ça, qui a besoin de nous, la vengeance elle est destructrice, la vengeance elle ne fait pas avancer, donc on s'est dit... Il faut qu'on passe à la justice. C'est venu assez naturellement de penser comme ça.
Et justement, tu parlais de la police qui a interféré à un moment pour prendre l'affaire en main. Mais au départ, vous êtes quand même les accusés un peu numéro un, vous, les parents ?
Les suspects, qu'effectivement, dans des affaires de syndrome du bébé secoué, et très objectivement, c'est normal, dans les premiers temps, sont suspectées les personnes qui passent le plus de temps avec l'enfant. Donc quand c'est un enfant comme ça qui est gardé par une personne qui est seule, tu vas te dire, bah, y a le père, il y a la mère, si c'est une famille où t'as les deux, et puis bah, t'as la nourrice. Après, quand tu regardes au sens large, après, tu peux avoir des fratries, des adolescents surtout, parce que les enfants physiquement ne sont pas en mesure de donner ce genre de séquelles sur un bébé. Tu peux avoir le mari de la nourrice, tu peux avoir ses enfants elle aussi. Mais voilà, il y a trois suspects potentiels dès le début de notre histoire. C'est mon mari, c'est moi et c'est la nourrice. Nous, ça, on ne l'avait pas compris. Mmh. On ne l'avait pas compris puisque Erwan est opéré dans la nuit du jeudi au vendredi. On a été reçus par la protection de l'enfance du CHU, on nous a expliqué comment ça allait se passer, qu'un signalement serait fait auprès du procureur de la République, et on nous a dit, mais vous, allez porter plainte. Portez plainte contre X parce qu'il faut ouvrir une enquête. Donc nous, on est restés au chevet d'Erwan quand c'était un petit peu compliqué, et dès le samedi matin, on a appelé mes parents, venez prendre le relais, nous on part, ça y est, on va voir la brigade des mineurs. On connaissait pas du tout le fonctionnement, hein. Bon, moi, en plus, j'ai une vie assez routinière, on va dire, donc la police, les gardes à vue, tout ça, c'était pas du tout mon habitude ni ma connaissance. Et je le dis en rigolant parce que ça m'a beaucoup marqué quand même. Et donc, on arrive en tant que parents pour dire, voilà, on arrive du CHU, voilà ce qui est arrivé à notre fils, il a été opéré, il est vivant, maintenant, on nous a dit qu'il fallait porter plainte. Et puis, t'attends, il se passe trois quarts d'heure, et en fait, on vient nous chercher. On nous dit, par contre, on va vous interroger séparément. Déjà, je me dis, nous interroger. On venait porter plainte quand même en tant que parent. Et là, en fait, je me rends compte très rapidement, mais qu'on n'est pas du tout là pour déposer plainte. En fait, on est isolés, mon mari et moi, dans des pièces différentes. Et là, c'est... Alors, je l'ai très très mal vécu, c'était violent, mais avec du recul, je me dis c'était soft. En fait, c'est qu'ils ont pris les devants, comme en fait, deux suspects, c'est ce qu'ils nous ont dit, deux suspects se présentent à nous, donc on est obligés de les interroger. Donc, mon mari, ça a duré un peu plus de 2 heures, et moi, ça a duré 4 heures. Sauf que ça m'a détruit, cet interrogatoire, parce que je suis ressortie en pensant que c'est moi qui avais pu faire du mal à Erwan. J'avais toujours pas compris réellement ce que c'était que le syndrome du bébé secoué. Pourtant, on m'a mimé sur place dans les locaux avec une peluche qui avait été infligée à mon fils. Je crois que j'allais m'évanouir plusieurs fois. Enfin, c'était dur. Mais en fait, maintenant, je comprends pourquoi ils ont fait ça. Parce que si j'avais fait quelque chose, ou si je savais que potentiellement mon mari l'avait fait, bah, à ce moment-là, je l'aurais dit. Mmh. Et là, je me suis dit, c'était très très dur pour moi. Après, j'étais mise sous anxiolytique et tout. Parce que voilà, c'était trop, trop de violence, trop de choses en quelques jours à assimiler. Voilà, en tant qu'individu, c'est trop, quoi, ça touche nos enfants en plus, et c'est très grave. Et en fait, après, on nous a dit, mais c'était normal d'en passer par là, il fallait qu'on échange avec vous. Bon, bah d'accord, ok, de toute façon, on l'avait dit depuis le début, s'il y a besoin de nous mettre en garde à vue, faites-le maintenant, enfin voilà, qu'on sache. Et puis, on a fait revenir nos proches aussi, un par un. Tous les gens qui potentiellement avaient vu Erwan pendant cette période, donc aussi des proches qui sont pas du coin. Des gens de région parisienne ou même de Lyon, pour témoigner ou attester de dans quel milieu Erwan évoluait, aussi bien au niveau de ses parents ou par rapport éventuellement à la nourrice, etc. Et la nourrice n'a pas été auditionnée tout de suite parce qu'on nous a dit avec les gardes à vue, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est maximum, il y a un délai du coup maximum qui est de 72 heures, je crois, enfin je ne sais plus exactement. Et on nous a dit, on ne peut pas du coup la mettre en garde à vue sans en savoir plus. Alors là, à ce stade, pour avoir des informations, bien sûr. Et donc, on a attendu comme ça. Ça a été assez compliqué. Ça a été informé, du coup, c'est remonté au... Il y a un signalement qui a été fait, en fait, au procureur de la République.
Mais ils ne l'ont pas interrogé comme vous
Dans les premiers temps, non. En fait, pour te donner des dates, Erwan a été opéré dans la nuit du 14 au 15 septembre. Et la nourrice a été entendue le 18 février de l'année d'après.
Et ça, ils arrivent à l'expliquer
Ah ben en tout cas, moi en tant que mère, personne ne me donne plus aucune information. J'essaye d'appeler, j'ai arrêté là maintenant parce que c'est assez destructeur. Et puis on a changé d'avocat et on fait les choses différemment. Mais je les ai harcelés bien évidemment, je voulais en savoir plus. Déjà pendant de nombreux mois, on m'a dit qu'elle n'avait pas été entendue. Et l'information que je te donne, je l'ai lue dans des documents quand je me suis retrouvée en garde à vue moi-même après par la suite. Je l'ai lu dans un rapport, alors que justement je leur ai dit, mais moi ça fait des mois que je ne dors pas, que personne ne comprend pourquoi elle n'a pas été entendue. Alors déjà de septembre à février, à mon sens c'est inadmissible, j'entends qu'il y a eu des manques de moyens, des manques de budget, etc., etc., et que mon fils est vivant, donc pas une priorité. Maintenant quand on va avoir des informations, c'est à chaud qu'il faut poser des questions, comme ça a été le cas pour nous. Mais après, je me dis, parce qu'il y a un changement de magistrat, décider de faire des gardes à vue 8 mois après, je vois pas bien l'intérêt. Et aujourd'hui, j'ai même pas de confirmation que la nourrice a bien fait de la garde à vue. On pense, mais on ne sait pas, parce que du coup, on n'a pas accès aux infos, et c'est très compliqué à gérer aussi ça. C'est-à-dire, on ne sait pas où ça en est, on ne sait pas ce qu'ils attendent, enfin voilà, c'est dur. Ça fait partie des choses difficiles auxquelles on essaye de pas penser au quotidien, sinon ça rend fou. Hein. Ouais.
Justement, une autre chose difficile que vous avez vécue à ce moment-là, c'est que comme vous êtes suspect, l'enfant est aussi, donc Erwan, doit être placé pendant une certaine période.
Ouais, donc il y a deux procédures distinctes dans ces cas-là. En fait, tu as une procédure donc, judiciaire, tout ce dont je viens de parler, et tu as aussi une procédure civile pour protéger l'enfant immédiatement. Donc quand c'est comme ça, le CHU est tenu en fait de faire un signalement auprès du parquet. Et le procureur de la République va donc saisir la brigade des mineurs pour l'affaire judiciaire et saisir également l'aide sociale à l'enfance et le juge des enfants pour la protection immédiate de l'enfant. Donc dans un premier temps, Erwan, il était opéré, il était surveillé, il était en service de réa, ça a duré 12 jours. Et puis bah, par chance, ce petit guerrier, il s'est remis super vite ses cicatrices parce que du coup, il a une très grande cicatrice sur la tête, plusieurs points pour faire passer la dérivation et une autre grande au ventre, puisque la dérivation va se jeter dans le péritoine pour pouvoir évacuer, on va dire, le sang qui est dans la boîte crânienne. Et tout ça, il se remettait très bien, et le CHU a essayé de faire traîner un petit peu le temps que l'affaire judiciaire avance. Et on nous a dit, le problème, c'est qu'on ne peut plus garder Erwan ici, donc il va falloir trouver une solution. Alors, on n'avait pas bien assimilé, en fait, que la solution, ça allait être le placement. Et là, du coup, on est de nouveau reçu par la protection de l'enfance du CHU qui nous dit on va attendre en fait le fax, ça va arriver demain ou après-demain. L'aide sociale à l'enfance va venir et Erwan, du coup, va aller temporairement dans une autre structure. Donc, dans un premier temps, il s'agissait de famille d'accueil. Autant te dire qu'on a fait des pieds et des mains pour que surtout pas. Je leur ai dit, mais à quel moment ça vous semble sensé, quand potentiellement il a été violenté au domicile d'une asthmate, d'aller le placer dans une famille d'accueil? Je me suis dit, moi je vais finir folle, mon mari, j'en parle même pas. Parce qu'en tant que femme, on arrive peut-être davantage à se raisonner que les hommes, je ne sais pas. Et ça, du coup, c'était dans l'intérêt de tout le monde pour que ça se passe bien. On nous a dit, Erwan va être confié à une pouponnière. Dans le secteur, il n'y en a qu'une seule, ou alors après c'est sur Le Havre, mais qui est à peu près 60-70 km d'ici. Donc déjà, ils ont fait en sorte qu'il ne soit pas à 70 km de chez nous. On a réussi du coup à obtenir une place à la pouponnière, qui est justement dans la maternité où Erwan a vu le jour, puisque j'ai accouché là-bas, ils ont d'autres bâtiments qui sont faits pour accueillir les enfants. Et moi, à l'époque, naïvement, je pensais que c'était une chance qu'il ait une pouponnière, parce que je ne suis pas du tout issue de ce milieu-là, je ne connais pas en fait les pouponnières. Avec du recul, je me dis, mais mon Dieu, c'est pas du tout adapté en fait pour un bébé de 6 mois et demi. Qui vient d'être opéré en plus. Ils ont été assez gentils avec nous, je ne sais pas comment l'expliquer, parce que c'est toujours violent, mais quand l'aide sociale à l'enfance est arrivée, parce que le fax de l'ordonnance de placement était là, à partir de ce moment-là, on n'a plus le droit de porter Erwan. Elles nous l'ont fait en douceur. Alors, par contre, je tiens à préciser, pour nous, c'est une chance parce que ça ne se passe pas toujours comme ça. Et en fait, elles nous ont dit, on va devoir emmener Erwan, dites-lui au revoir, vous avez préparé ses affaires, tout ça. Et on a dit, est-ce qu'on peut vous accompagner? Et en fait, elles nous ont laissé le droit. Alors, on ne pouvait pas porter Erwan, mais on est descendu avec eux dans l'ascenseur. En voyant notre petit bout, du coup, tout mignon. Moi, j'avais expliqué à mon fils que comme il venait d'être opéré, il allait aller dans une maison de repos. Enfin, je me suis dit, moi, je crois que j'ai besoin de me convaincre de ça. Du coup, c'est ce qu'on a dit au grand, qui était temporairement chez sa maman, le temps que nous, on gère la situation. Et moi, j'avais besoin de me convaincre, en fait, qu'Erwan n'était pas placé, qu'il m'était pas retiré, mais qu'il allait en maison de repos. Donc, c'est un discours que j'ai tenu très jovial à Erwan. On va aller dans une maison de repos, le temps que ton petit tuyau, parce qu'on appelait ça son petit tuyau, la dérivation, ton petit tuyau, faut qu'il se mette bien, et puis on va venir te voir et tout ça. Et nous, on pensait en fait pouvoir passer du temps à la pouponnière. J'en rigole, c'est pas drôle, mais au CHU, on était là non-stop. On se relayait, on se permettait même parfois. Je disais, je vais prendre l'air, je vais marcher un peu, j'allais chercher un sandwich, voilà. Et je pensais que je pourrais aller voir mon fils comme ça.
En accès libre.
En accès libre, exactement. Parce qu'on ne donne pas les infos. Et comme, encore une fois, on n'est pas du milieu, ni mon mari, ni moi, on ne sait pas en fait. On ne s'était jamais renseigné. Quand tu n'es pas confronté à tout ça, tu ne te renseignes pas, quoi. Et donc on est parti en voiture, on a suivi du coup la voiture de l'aide sociale à l'enfance où était Erwan. On est arrivé du coup sur place, on nous a dit, écoutez, c'est exceptionnel, normalement vous devez voir les enfants que le lendemain ou deux jours après. Ah bon, comment ça deux jours après, vous ne comprenez pas trop. On va vous emmener, on va vous faire visiter le lieu. Donc a priori, ça aussi c'est une chance qu'on a eue de pouvoir faire la balade. J'ai gardé un peu Erwan dans mes bras, comme il y avait du monde, j'avais le droit de l'avoir dans mes bras, mon mari aussi. Et on est allé s'installer dans une grande pièce, et là, du coup, on a été reçus par 3 ou 4 personnes pour nous dire, l'ordonnance de placement est arrivée, donc d'habitude, en fait, vous ne pouvez venir dans les locaux que une heure, deux fois par semaine. Et là, je me rappelle avoir mis ma main sur la jambe de mon mari, parce que je me suis dit, il va tout péter, il y a un moment, on nous en demande trop, c'est trop, quoi. Notre fils a été maltraité, on a cru qu'il allait mourir, il est vivant, on nous le retire, enfin, arrêtez, quoi, foutez-nous la paix, laissez-nous profiter de cette seconde chance de vivre tous ensemble, sans nous faire endurer tout ça. Et là, on nous dit, vous, votre chance, c'est que le procureur, du coup, a estimé que vous pouviez voir Erwan tous les jours. Et là, je me dis, trop cool, super, je vais voir mon gosse, je vais être avec lui tous les jours. Et là, on nous dit, par contre, à raison d'une heure et demie par jour. Ah bon, 1h30 par jour, mais comment ça? Et là, on m'explique que c'est des visites médiatisées, que je ne serai jamais seule avec mon enfant, que les visites, elles vont être programmées à l'avance. Et là, je commence à me dire, mais c'est quoi ce bordel? En fait, j'avais pas encore compris ce que c'était qu'un placement d'enfant. Je crois que j'avais pas... Mon cerveau, c'était trop violent, il voulait pas assimiler l'information. Mon mari parle très peu, donc j'ai su que plus tard, après, il me disait, bah, je t'ai laissé, en fait, te bercer d'illusions, parce que je me suis dit, sinon, ça aurait été trop violent pour toi. Il me dit, moi, je préférais ne rien dire parce que déjà, c'était difficile pour moi. Puis il me dit, puis toi, je te voyais tout en jouer, dire à Erwan qu'il allait en maison de repos. En fait, je crois que j'ai tellement voulu en faire pour Erwan. Et je crois que c'est moi qui avais besoin de me convaincre de tout ça pour que ce soit moins dur. Ça s'est plutôt bien passé quand même parce que du coup, en fait, le lieu, si tu veux, n'était pas adapté pour nous recevoir le samedi et le dimanche. C'était fermé au public. Sauf que nous, l'ordonnance de placement stipulait qu'on pouvait voir Erwan tous les jours. Donc ni une ni deux, on a appelé l'avocat, bougez-moi ça tout de suite, eux peuvent pas nous accueillir, mais moi j'ai le droit, c'est ce qui est écrit. Donc là, la pouponnière s'est trouvée un peu bête, et du coup on a eu l'autorisation de sortir Erwan les samedis et les dimanches, 3 heures par jour. Donc on s'est engagé à pas le ramener à la maison, mais du coup on a pu aussi appeler les tatas, les tontons, les grands-parents, tous les gens qui l'aiment et qui ont toujours été là pour lui à ses petits soins, parce que pendant ce temps-là, ils étaient aussi privés de voir Erwan.
Il est resté combien de temps à la pouponnière ?
À la pouponnière, il y a passé 13 jours. 13 jours parce que de toute façon, c'est le délai légal, tu dois être reçu en tant que responsable légal de l'enfant dans un délai entre 8 et 15 jours. Nous, du coup, forcément, on avait arrêté de travailler. Enfin, voilà, on avait planté nos vies. On s'est dit, t'arrêtes de vivre quand c'est comme ça. Je te passe tous les détails. Et on a fait tout ce qu'il fallait avec l'aide sociale à l'enfance, avec les psychologues, pour qu'il y ait un maximum de rapports sur nous. Parce qu'à ce moment-là, si tu veux, ne juge pas si oui ou non t'es coupable des secouements de ton enfant. Il juge si c'est dans l'intérêt de l'enfant de rester éloigné des parents. Donc, c'était là où il fallait justement qu'il y ait un maximum de rapports de faits. Donc, depuis le début, les rapports du CHU étaient très bons en notre faveur. C'est ce qui a permis que l'ordonnance de placement soit plus souple avec nous. À la pouponnière, ils nous ont vus régulièrement, puis on appelait le matin et le soir, même si on nous disait, par contre, faut pas appeler, c'est pas censé se passer comme ça. Vous avez mon petit garçon de 6 mois et demi, en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne dors pas, je ne mange pas, je ne vis plus. Je peux que avoir de ces nouvelles à travers ce putain de téléphone. Enfin, voilà, c'est difficile. Et puis, très rapidement, ils ont vu que finalement, ça allait quand même. Et quand on est passé devant le juge des enfants, l'avocate était là, elle a pris parole, mais bon, avec du recul, elle ne nous a pas beaucoup aidé malheureusement, parce qu'elle faisait un lien avec l'affaire judiciaire. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, attends, Marie, il n'y a personne de mieux placé que toi pour prendre parole à ce moment-là. Donc j'ai levé la main très discrètement, je ne savais pas du tout comment ça se passait. J'étais très impressionnée aussi, parce que j'ai l'impression de jouer ma vie. Je me suis dit, ce jour-là, tu joues ta vie. C'est soit on te rend ton enfant, soit il est placé. Et voilà, quand tu mets un pied dans le système comme ça, c'est très compliqué d'en sortir. Et je me suis dit, c'est maintenant, quoi. Alors, je ne saurais pas te répéter ce que j'ai dit exactement, mais c'est ce que je leur ai dit. Nous, on n'a pas secoué notre enfant, on le sait. En attendant que la brigade des mineurs fasse son travail et puisse vous dire qui a secoué notre bébé, Erwan n'a jamais été en danger avec nous. Voilà, tous les rapports sont là. Et si on reste éloigné trop longtemps, là, ça va être dévastateur. Et de là, on a fait une très grande fête le soir, parce qu'après avoir délibéré, du coup, on nous a donné l'autorisation de sortir Erwan de la pouponnière, mais avec un suivi qui n'est pas fini aujourd'hui. En fait, les services sociaux venaient une fois par semaine à la maison. C'est très léger, c'est chiant, effectivement, parce que tu te sens pas libre de tes mouvements, tu te sens observé tout le temps. Maintenant, c'est important dans ces affaires-là, parce que tout ce qui compte, c'est que tu récupères ton enfant, quoi. Donc voilà, tu repasses à nouveau devant le juge et tout, mais tout ce qui compte, c'est que tu te dis, c'était 13 jours d'horreur, 13 jours hyper compliqués où t'es seul, où tu sais que ton enfant est ailleurs, il a besoin de toi. Les émotions, elles sont trop fortes, parfois elles sont trop violentes. Et il faut du coup ne pas trop s'entourer que des piliers de nos vies. Donc on a mis beaucoup de distance avec nos proches, même des gens qui nous aimaient mais qui n'ont pas été utiles. Alors c'est horrible de dire ça, tu n'utilises pas les gens, mais il y a des gens qui te font du bien, qui te canalisent, et il y a des gens en fait qui t'engrènent à aller faire des conneries. Quand c'est comme ça, je sais que c'est maladroit de la part des gens, mais quand t'entends, mais si c'est moi, mais je la bute direct, la personne qui a fait ça. Et là, t'as envie de sourire, et en fait, t'as envie de lui mettre ta main dans la tronche, en fait, et lui dire, et ton avis, avec quoi je vis tous les jours.
Et justement, avec ton mari, comment vous êtes soutenue au quotidien ?
Ça s'est fait naturellement. Je n'aurais même pas te dire. Les premiers temps, forcément, je me suis transformée en inspectrice. Je lui ai posé toutes les questions que j'avais besoin de lui poser en tant que sa femme et en tant que maman. Je le connais et tu vois, c'est ça qui est bizarre parce que je pense qu'il faut toujours rester vigilant, même dans un couple. mais je le connaissais suffisamment pour me dire ça lui correspond pas. Enfin, il m'a tellement aidée à plein de reprises, que ce soit les nuits ou... C'est une crème, même d'ailleurs un peu trop, parce que je le vois faire avec son fils. En fait, je l'ai connu en tant que père avant même d'avoir un enfant avec lui. C'est aussi ce qui a fait que j'ai eu envie d'avoir un enfant rapidement avec cet homme-là. C'est que je me suis dit, je l'accompagne à élever un enfant. J'étais pas toujours d'accord avec son système d'éducation parce que je le trouvais justement trop laxiste. Après, je me suis dit, mais je sais pas s'il en est pas capable. Par contre, tout ce qu'on a traversé tous les deux, je le connais par cœur. Et je me dis, s'il avait fait quelque chose, si Erwan était tombé ou s'il y a eu quelque chose, il l'aurait dit, parce qu'à ce moment-là, ça aurait aussi permis de sauver la vie d'Erwan. Et en fait, je suis une femme assez indépendante. J'ai longtemps été célibataire et je pensais même mener ma petite vie de femme célibataire, avoir un enfant un jour, mais voilà, je n'avais pas besoin d'être accompagnée dans ma vie. Après, je l'ai rencontré et les choses ont changé, du coup. Et j'ai toujours été assez indépendante, même que ce soit pour mes émotions, quoi. Et là, en fait, il s'est avéré que je tenais plus debout, au sens propre comme au sens figuré, et que lui, du coup, il s'est révélé être un pilier dans ma vie. Alors, je l'aimais, j'avais fait un enfant avec lui, mais je dirais pas que je le considérais comme un pilier, parce que je me suis toujours considérée assez forte, on va dire, pour ne pas avoir besoin de pilier. Et à ce moment-là, le fait qu'il prenne sur ses propres émotions, sur ses propres envies de vengeance et tout ça, pour moi, pour nous, pour notre famille, et en fait, je me suis laissée aller à le laisser faire, à me reposer sur lui. Donc ça a été les quelques premiers temps, en fait, où j'avais besoin de médicaments, où j'avais besoin de choses aussi pour calmer mon hystérie. Et parce qu'en fait, finalement, à l'inverse de ce que tout le monde pensait, tout le monde s'est inquiété que mon mari fasse une connerie, alors qu'en fait, dans la réalité des choses, c'est moi qui étais attachée. Je pensais pas que j'étais capable. Alors, je me suis jamais retrouvée en situation de mettre en pratique tout ce à quoi j'avais pensé. Mais on a vraiment été soudés, surtout dans un entourage de fous, que ce soit familial ou amical. Et ça, je pense que quand tu traverses des choses difficiles comme ça, surtout avec, j'ai pas connu d'autres choses très graves comme ça, mais en tout cas dans cette maltraitance qu'est le syndrome du bébé secoué, toute la gravité des choses avec les placements et puis les pronostics vitaux engagés, tu te dis, si t'as pas un entourage, alors pour te soutenir et pour te contrôler aussi, parce que moi je me suis dit, on va avoir besoin en fait d'appeler nous-mêmes la police pour qu'on nous attache. Le placement de mon fils, je pensais que ça allait se passer comme ça. Je me suis dit, il faut qu'on fasse... Et en fait, à force de communiquer tous les deux, de dire à mes parents, rester un peu avec Erwan, nous on va parler. Donc on partait au CHU, en plus à cette époque-là il faisait beau, enfin c'était un climat bizarre, mais comme il faisait beau, tu te sentais encore plus positif. Et on parlait de tout ça et on mettait des mots sur nos émotions. Donc c'était des larmes, c'était des cris, c'était des coups de poing dans des arbres, des choses comme ça, mais au moins on en parlait tous les deux et on se disait, tu sais, les garde pas pour toi, mais on se le disait mutuellement. Alors je parle beaucoup plus que lui, mais dis-le, parce que si tu le dis pas, tu vas nourrir ça en toi et c'est le meilleur moyen de passer à l'acte. C'est arrivé un moment que j'attendais mon mari au CHU, qui était reparti à la maison chercher des affaires. Je savais à quelle heure il devait arriver, il n'arrivait pas. Il y a eu un film dans ma tête tout de suite, putain, je sais où il est, vite, faut que j'appelle quelqu'un, aller voir s'il n'est pas sur place. Enfin, tu t'y penses tout le temps, parce que tu te dis, quand t'es ensemble, t'as un visuel et un contrôle sur l'autre, mais dès lors où t'es plus ensemble, donc au début tu fais tout, tu marches main dans la main et tu te quittes pas, et t'es là parce que chaque nouvelle information c'est extrêmement difficile à assimiler, puis aussi que t'as deux cerveaux pour entendre, enfin pour assimiler les informations, mieux les comprendre et savoir ce qui va se passer, te passer encore une fois le relais avec Erwan, parce que ça a toujours été la base de notre couple et je pense que ça c'est hyper important, d'avoir un papa qui tient la route, d'avoir un papa investi, et d'avoir un papa qui n'est pas parfait du tout, c'est clair, mais c'est pas ce que je lui demande, mais un papa sur lequel je peux me reposer, quoi.
Et donc, y a aussi le fils de ce super papa, qui est un peu plus grand, il a quel âge ?
Il va avoir 9 ans.
Comment il a vécu, lui, toute cette histoire, tout ce drame ? Comment
vous l'avez protégé ? Ça a été difficile, parce que quand Erwan était à l'hôpital... On n'a pas trop pensé à lui les premiers temps. Ce serait te mentir les premiers temps. Je te dis ça, je te parle d'une journée ou deux jours. Mmh. T'es tellement concentré, il n'y avait plus qu'Erwan et sa survie et la phase post-opératoire qui comptait. Et après, on s'est dit, merde, mais au fait, Nolan, je crois de mémoire, Gaëtan avait dû, enfin mon mari avait dû envoyer un message à la maman de Nolan. Et puis le samedi en sortant de la brigade des mineurs, donc 48 heures après, on est allé le voir chez sa maman. On s'est conditionné, on s'est briefé avant, surtout qu'émotionnellement c'était un peu lourd parce qu'on sortait d'un interrogatoire assez musclé. Mais on s'est dit au contraire, on a besoin de nos enfants, ça va nous faire du bien. Donc la maman de Nolan nous a accueillis chez elle et j'avais dit à mon mari, écoute, c'est un enfant, il n'a pas besoin de tout savoir. On va lui dire que son frère est à l'hôpital, que temporairement on le laisse chez maman, parce qu'on l'avait en garde alternée une semaine sur deux à l'époque. mais que ça va, qu'il ne s'inquiète pas. Et puis, je lui dis, puis à nous aussi de le rassurer. Et puis, mon mari, en voulant parler à son fils, en fait, il s'est effondré en larmes. Donc là, forcément, le petit, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Alors, tout le monde pleurait, je me suis dit, ça commence très mal, c'est pas du tout comme ça qu'on avait prévu les choses. Et en fait, j'avais fait des petites vidéos d'Erwan que j'avais envoyées à la famille. Je dis, attends, Nono, viens sur mes genoux, regarde, et je lui ai fait voir des vidéos. Et là, en fait, il a rigolé. Parce qu'Erwan, finalement, à part les pansements, le bras, du coup, avec la perfusion et tout, qui était assez impressionnant, mais c'était rien. Quand tu vois ça, c'est pas grave. Et en plus, le syndrome du bébé secoué, c'est assez sournois, c'est que ça se passe à l'intérieur. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de choses. Les cicatrices étaient cachées par des pansements. Et on s'est dit, on va y aller crescendo. Donc, passé ce moment très difficile où mon mari avait besoin de son fils, de câlin et tout, et j'avais dit surtout, on lui parle pas de la maltraitance, ça le regarde pas. Bon, après, voilà, il y a eu, je pense, des petits problèmes de communication entre les deux familles, et Nolan a su très rapidement qu'il s'agissait de maltraitance. Là où nous, on voulait le protéger de tout ça, on avait demandé conseil aussi avec les psychologues du CHU. Donc ça, après, ça a été un peu aussi doux d'amertume de ma part de me dire, mince, nous, en tant que premiers concernés, on essaye de le protéger, finalement, et des informations autrement. Et puis, lui, dans sa petite tête d'enfant, il fallait aussi trouver quoi lui dire pour le rassurer, parce que l'imaginaire des enfants, il est sans limite. Et la première chose que je lui ai dit, c'est de lui dire, mais en tout cas, t'inquiète pas, on sait que c'est pas toi. On sait que t'as pas pu faire du mal à ton frère. Parce que je me suis dit, si jamais il s'imagine une seule seconde, moi j'étais quand même sous antidépresseur, anxiolytique, parce que j'étais persuadée que j'avais fait un truc grave, je me suis dit, lui, il peut penser que c'est lui. Donc je lui ai dit, tu nous connais, tu sais que c'est pas papa, c'est pas Marie. Je lui ai dit, par contre, sois sûre d'une chose, c'est que ça n'est pas toi. On le sait, tu n'as pas pu faire du mal à ton petit frère. Donc déjà, il était rassuré. Et on a très vite voulu l'emmener à l'hôpital. C'était pas évident les premiers temps. On m'a dit, mais nos enfants, ils ont besoin l'un de l'autre. Ils sont tout le temps ensemble, enfin, une semaine sur deux, certes, mais ils sont très très proches. Mon beau-fils est un super grand frère. Enfin, c'est déjà un super beau-fils, mais en plus, voilà, tout ce lien aussi que nous, on a, belle-mère, beau-fils, ça avait permis de partager la grossesse tous les deux, de l'investir beaucoup dedans, et dès la naissance de son petit frère, d'être là pour lui donner le biberon, pour l'endormir. Enfin, voilà, il avait son rôle à jouer. Je me suis dit, mon garçon, il a besoin dans son processus de reconstruction et après son opération de son frère. Et là, ça a été bouleversant, parce que quand son frère est venu à l'hôpital, il a eu une réaction. Les deux ont eu une réaction qui est propre à eux, qui est propre à la fratrie. Des sons, des rires, des choses qu'on n'avait pas encore entendues. Alors là, tout le monde pleurait. Que ce soit mon mari, moi ou le personnel médical, c'est tellement beau à voir. Et puis après, ça a été assez compliqué, parce que du coup, le placement de son petit frère, forcément, il ne fallait pas lui en parler. On lui a tenu ce discours de maison de repos, tout ça. Et moi, je voulais surtout pas en fait qu'il nous voit dans ces moments-là de notre vie, parce qu'on s'est dit, on peut faire bonne figure comme ça, mais les traumatismes qu'on vivait, ou autant se le dire, on a cassé des choses en pleine nuit, on a pleuré, on a hurlé, on s'est raisonné de redescendre de la voiture pour pas aller tuer des gens, enfin voilà, c'était ça notre vie à ce moment-là, pendant qu'Arwan était placé. Et du coup, on s'est dit, il a pas le droit de voir ça, enfin, on peut pas le traumatiser avec ça. Je pense que c'était déjà assez violent pour lui. Il avait même pas 8 ans. Il n'avait pas encore 8 ans à ce moment-là. C'est dur, c'est trop dur pour un enfant. Et puis après, lui aussi, on l'a fait voir des psychologues, parce que du coup, au niveau de son comportement ou certaines choses, on sentait aussi que c'était compliqué. On a essayé de beaucoup parler avec lui.
Il est resté chez sa maman, du coup?
Alors, il est resté chez sa maman pendant un mois à peu près, où nous, on allait le visiter chez sa maman. Et en fait, on a récupéré Erwan début octobre de son placement, le 9 octobre exactement. Et on s'est laissé une semaine ensemble. Et on s'est dit, après, on reprend notre vie. Donc, mon mari a repris le travail très rapidement. Et on s'est dit, on reprend aussi Nolan en garde alternée. Ça a été assez compliqué. Avec du recul, je me dis, c'était peut-être trop rapide, parce que, fallait faire face aussi à nos propres émotions. Moi, quand j'ai récupéré mon fils, du coup, personne ne pouvait y toucher quasiment. Je le mettais sous une cloche de verre. Donc ça, je me suis fait violence très vite aussi, de le laisser aller dans les bras des autres. J'étais vigilante à tout. Surtout qu'en plus, il était porteur de matériel interne. Donc, fallait faire attention à ça aussi. Mais je me suis dit, stop, fais attention, parce que n'exclus pas son frère de sa vie. J'avais changé de comportement. De toute façon, je ne suis plus la même femme que j'étais avant, ça c'est certain. T'es plus la même mère, mais même au sens plus large, t'es plus la même personne. Quand tu vis des choses difficiles, quelles qu'elles soient, ça te change. Et du coup, il a fallu tout le monde se réapprivoiser, si on peut dire ça comme ça. Et ça a été assez compliqué. Ça a été assez compliqué parce qu'aussi, comme dans toute famille recomposée, ça se passe pas toujours très bien. Donc c'est le moment aussi où d'autres personnes en profitent justement pour faire ressortir d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ça. Et du coup, ça nous a éloignés. Honnêtement, mon beau-fils et moi, on s'est éloignés à ce moment-là. On travaille là-dessus depuis un petit moment justement pour nous rapprocher. Et puis mon mari, en fait, était concentré que sur les enfants, le boulot, les enfants, le boulot, il n'y avait plus rien qui comptait. Donc il y a eu ça aussi dans notre couple, il a fallu aussi réapprendre à fonctionner tous les deux. Moi qui avais plutôt un tempérament à vouloir changer tout le système, faire de la prévention, me battre et tout ça. Mon mari, non, à l'inverse, il était complètement passif et si on pouvait vivre que d'amour et d'eau fraîche enfermé à la maison, ça lui allait bien, quoi.
Et alors, tu en parles, depuis, tu as rejoint une association qui s'appelle l'association Tatiana.
Oui, c'est ça. C'est une association qui a été présente pour moi dans un premier temps en tant que mère de victime. Quand on a su à l'hôpital qu'il s'agissait du syndrome du bébé secoué, c'est un terme que j'avais jamais entendu. Quand on m'a dit votre fils a été secoué, je te le disais tout à l'heure, mais secoué, c'est-à-dire, enfin, je sais pas, ça coule de source que tu secoues pas un enfant, mais je savais pas ce que ça voulait vraiment dire. Et en fait, je crois que c'est mon papa de mémoire qui a dû faire des recherches sur internet pendant qu'on était au CHU et qui après m'a donné les coordonnées, c'est un numéro de portable, les coordonnées d'une association. Il m'a dit, écoute, c'est la seule que j'ai trouvée, l'association Tatiana. Apparemment, c'est une petite fille qui aurait été victime du syndrome du bébé secoué. J'ai laissé ça comme ça. J'avais pas envie à ce moment-là. Et puis quand Erwan a été placé, ça a été le moment le plus compliqué pour moi parce que là, je pouvais plus m'occuper de lui. J'avais plus de raison de me lever. J'avais plus de raison d'être raisonnée, d'être sérieuse, de pas faire de bêtises. Et là, je me suis dit, il faut que je m'occupe. Donc à cette époque-là, j'ai créé le compte Instagram qui s'appelle Stop Bébé Secoué où je faisais de la prévention de manière anonyme. Et j'ai contacté l'association Tatiana. Donc du coup, j'ai expliqué à la présidente, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de permanence téléphonique, c'est elle qui recevait les appels, et je lui ai dit, voilà, mon fils est placé en ce moment, alors il est vivant, apparemment, il va plutôt bien, mais c'est ce qu'on m'a expliqué, le cerveau, c'est tellement aléatoire que il y a seulement à sa majorité qu'on saura s'il est bien consolidé et tout ça. Elle m'a expliqué plein de choses que je ne savais pas, elle m'a donné des conseils, et puis elle m'a dit, nous, on est là, en fait, on est des parents de victimes à la base, mais on a vécu ça il y a des années et des années, parce qu'aujourd'hui, Tatiana a 19 ans. Et elle me dit, nous, on s'est rendu compte qu'on est seuls, en fait, en tant que parents. Et je me suis dit, oui, c'est ça, parce que moi, j'ai demandé un suivi psychologique à la maternité où j'avais accouché, mais personne ne m'a rien proposé. Nous, on a la chance d'être entourés et d'être des gens, je pense, assez raisonnés. Mais je me suis dit, d'autres parents qui vivent la même chose que nous, on serait déjà en prison ou mort parce qu'on aurait fait une connerie. Donc on a parlé de tout ça. Elle m'a dit, nous, on est là pour ça, en fait. On apporte avant tout un soutien aux victimes et à leurs familles, que ce soit un soutien psychique ou un soutien juridique. Et elle dit également, à côté, on fait de la prévention. Ça a commencé comme ça. Après, je leur ai dit, écoutez, moi, je suis une maman un peu... une maman d'Instagram de cette génération-là où tu partages ta grossesse, où tu partages tes joies et tes peines. Et je lui ai dit, moi, j'ai ouvert un compte parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Je ne sais pas si ce que j'écris, c'est bien. Elle connaissait pas trop le fonctionnement, elle a regardé. Et puis du coup, elle m'a dit, oui, c'est bien ce que tu fais de la prévention. Puis les mois ont passé, on est restés en contact. Il se passait rien de plus parce que j'avais pas plus besoin d'eux, du soutien, moi j'en avais. Par contre, j'étais très admiratif de leur travail, très admiratif de me dire, heureusement qu'il existe une association comme ça, parce que finalement, on est livrés à nous-mêmes. Personne, alors à part nous enfermer dans des cellules ou nous faire beaucoup de mal, même si c'est la loi, même si je le comprends, tu vis des choses horribles, même si t'es mal entouré, tu finis en hôpital psychiatrique, tu finis à la morgue ou tu finis en tôle. Donc je me dis, heureusement que l'association Tatiana est là. Et puis, au mois de janvier 2018, je leur ai dit, j'aimerais faire quelque chose pour vous, mais de manière plus officielle. Donc ça a commencé comme ça. Au lieu d'écrire de manière anonyme, j'ai écrit pour eux, j'ai écrit des textes, on les a partagés. Et puis moi, ça m'a donné aussi le courage d'annoncer sur les réseaux sociaux que c'était moi la maman qui écrivait dans l'ombre, que j'étais la maman d'Erwan. Et en fait, après, ça a un petit peu dépassé ce que je pensais. Les gens ont été touchés, les gens ont rejoint l'association. Je te dis ça parce que l'association, elle existait bien avant que Erwan soit victime. Mmh. C'est pas parce qu'elle était victime que ça a changé tout ça. Par contre, il y a eu un élan à ce moment-là de partage, de choses comme ça. À l'époque, il y avait, je sais plus, il devait y avoir une quarantaine d'adhérents. Aujourd'hui, on en a 220 et quelques. Il y a eu aussi d'autres décès, malheureusement, depuis, qui ont été médiatisés, et qui ont fait venir d'autres familles. Mais je me dis, j'ai le sentiment d'être utile, de mettre ma pierre à l'édifice pour qu'on fasse évoluer les choses. Donc, mes missions au sein de l'asso, elles ont aussi évolué et j'ai de plus en plus de responsabilités. Mais je me dis, je suis heureuse, en fait, plutôt que d'avoir continué à déprimer chez moi, d'avoir continué à imaginer ce que j'allais faire à la personne qui avait fait du mal à mon fils. Je te cache pas, j'y pense encore, je suis toujours tétanisée à l'idée de me dire, mais le jour où on va être confrontés l'une à l'autre, comment ça va se passer, comment je vais réagir, est-ce qu'il va falloir qu'on me menotte à une chaise d'abord ou... Mais j'essaye de plus y penser maintenant parce que je me dis, en tout cas, ce que je peux faire, c'est choisir comment je vis les choses Et puis, bah, choisir de me rendre utile, en fait. Que toute ma peine, que tout ce qui a été dur pour moi, la colère et tout ça, je la mette dans quelque chose de bien. C'est souvent ce que je dis. J'essaye de rendre positif cette chose que j'ai pas choisie, qui m'est tombée sur le coin de la tête. C'est tombé sur mon fils, mais du coup, c'est moi qui l'ai vécu. Je me dis, bah, si notre histoire, elle peut permettre de donner de la force à la prévention du syndrome du bébé secoué et permettre de développer aussi l'association et son rôle, puisque l'idée, c'est aussi d'être reconnue d'utilité publique, c'est pas le cas aujourd'hui. Mais on se dit, on pourra faire encore plus d'actions et surtout bah, protéger d'autres enfants, quoi.
Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme action, justement ? Enfin, qu'est-ce que fait l'association comme action pour faire de la prévention ?
Alors, écoute, les actions sur le terrain, en fait, on fait des ateliers de prévention. Donc, on se déplace partout en France, que ce soit dans des relais d'assistantes maternelles, dans des écoles de sages-femmes, des écoles d'infirmières. Là, très récemment, on a échangé avec une école de psychomotriciens qui est à Boulogne. C'est une profession médicale en fait, que tous les parents de victimes connaissent parce que les psychomotriciens en fait, accompagnent nos enfants à développer, quand ils ont des retards notamment de croissance ou des retards moteurs, ils les accompagnent beaucoup. Et en fait, les jeunes filles, les étudiantes qui sont venues nous voir, elles nous ont dit « Mais en fait, nous, ce serait aussi intéressant qu'on comprenne en amont puisqu'on accompagne les victimes. » Et nous, on s'est dit « Mais génial, c'est justement ça dont on a besoin. » Donc ça passe par ça sur le terrain, ça passe aussi par beaucoup de prévention sur les réseaux sociaux, voilà, que ce soit par des posts d'information, on essaye d'être un petit peu à la page, donc des stories, des directs, des choses comme ça. Et puis moi je m'occupe aussi de réaliser des webconférences qui sont mensuelles, donc tu t'inscris sur le site internet de l'association, c'est tous les premiers lundis de chaque mois et c'est gratuit. Et du coup, pendant un temps d'échange, alors il y a à peu près 45 minutes où je parle toute seule, où j'explique tous les tenants et les aboutissants, et après, on a des questions-réponses. Parce que je dis toujours, il n'y a pas de mauvaises questions. Les gens ont toujours beaucoup de questions par rapport au syndrome du bébé secoué, parce qu'on a peur. On a peur que ça arrive à notre enfant. On a peur peut-être de ne pas adapter les gestes, parce qu'on n'a pas compris ce que c'était. Donc du coup, on a peur d'avoir des mauvais gestes avec notre enfant. Ou alors, après, on se dit, ça se trouve, c'est arrivé à mon enfant et je ne le sais pas. C'est souvent ce genre de questions qui reviennent. Donc, on fait de la redite. Mais je me dis, plus il y aura de redite, mieux ce sera. Et puis après, il y a d'autres actions un peu plus poussées, que ce soit notamment avec le ministère de la Santé. On est en contact avec des députés, des sénateurs. On a également mis en place en fait, une pétition suite au décès d'un petit garçon, donc le petit Tom. Le procès en fait, a eu lieu en 2018. C'est l'assistante maternelle du coup, qui a secoué et tué ce petit garçon. Et en fait, cette assistante maternelle n'a écopé d'une peine de prison que de 7 ans. Alors, elle ne fera pas les 7 ans, puisque c'est le système judiciaire en France. Mais le plus choquant au-delà de cette peine minime, c'est qu'elle n'a pas eu d'interdiction d'exercer à vie. Ça veut dire qu'elle a tué un enfant, mais qu'une fois que l'interdiction d'exercer sera terminée, cette femme pourra de nouveau travailler ou être bénévole et être au contact d'enfants. Et nous, en fait, ça fait partie de nos actions au sein de l'association, c'est de faire évoluer les lois en France pour que les formations d'assistantes maternelles, l'information donnée aux parents pendant la grossesse ou dans les maternités, et aussi que les professionnels de santé soient mieux informés pour mieux diagnostiquer le syndrome du bébé secoué, parce que ça, c'est primordial. Et donc, nos actions, elles sont sur ces trois pôles-là, de dire en amont, il faut changer les choses, il faut faire évoluer les choses. Et donc, suite au procès de la nourrice du petit Tom, on a mis une pétition qui est en ligne sur le site internet, elle a quasiment 25 000 signatures à aujourd'hui, et on veut justement faire des propositions pour modifier les lois. Donc après, bon, c'est pas mon équipe au sein de l'asso qui s'en occupe, c'est d'autres personnes, et je sais qu'ils ont bien avancé sur le sujet, donc on espère que ça verra le jour, parce qu'on se dit, de toute façon, on n'a pas le pouvoir de sauver la vie de ces enfants-là, on n'a pas le pouvoir de mettre en prison leur bourreau. Par contre, on a le pouvoir de traiter le sujet là où c'est important. Le nerf de la guerre, c'est la prévention. Mieux les gens entendront parler et comprendront ce qu'est le syndrome du bébé secoué, plus des enfants seront protégés. Hein. C'est mathématique et on se dit, et c'est là. Et moi, c'est ça qui me motive chaque jour à continuer tout ça, même si c'est parfois difficile d'en parler, c'est que je me dis, peut-être que si moi, on m'avait réellement dit, tu sais Marie, un bébé, il peut être empoigné au niveau du thorax ou les aisselles, être violemment secoué, son cerveau va taper les parois de la boîte crânienne et il aura des séquelles à vie s'il ne meurt pas, je me serais dit, ah bon ? Il y a des gens qui font ça. Enfin, ça paraît très naïf de ma part, mais j'étais à mille lieues parce que t'as pas envie de penser à ces choses-là. Tu te dis, il se passe déjà assez de trucs horribles comme ça avec les enfants. Ça, t'imagines pas quand t'es normalement constitué que c'est possible. Alors oui, tu te dis, c'est possible de crier sur son enfant. Moi, la première, des nuits où je dormais pas, je me dis, mais putain, quand est-ce que tu vas dormir ? Ça, je l'ai fait et j'en ai pleuré derrière de me dire, oh là là. Puis après, je me suis dit, quand je pense à ce qu'il a vécu ou ce que d'autres enfants vivent, je me dis, en fait, c'est pas grave du tout. On peut pleurer, on peut lui dire, mais mon Dieu, tu vas dormir. Tant que tu passes pas à l'acte, tant que justement, quand t'es fatigué, tu passes pas le relais à quelqu'un d'autre. Enfin, je me dis, je pense que si déjà on arrive à informer n'importe quelle femme, qu'elle soit maman ou pas, parce que je me dis, potentiellement, n'importe quelle femme deviendra maman un jour. Si déjà, entre nous toutes, on arrive à en parler, et c'est aussi pour ça que je suis présente sur Instagram, parce qu'il y a une forte communauté de mamans ou de jeunes femmes, je me dis, si t'apprends ce que c'est, tu vas en parler aussi à ton compagnon, tu vas en parler à tes frères, à tes cousins. Et je me dis, et comme ça, on arrivera à en parler de plus en plus, et je suis convaincue, vraiment persuadée, qu'on protégera des vies grâce à ça. C'est certain.
Et comment on fait du coup pour choisir une nounou est-ce que, enfin je pensais du coup, est-ce qu'on la prévient que si elle se sent dépassée, elle peut nous appeler? Comment on peut la prévenir, elle, tout en la choisissant, que potentiellement, si elle se sent un peu dépassée
Eh bien écoute, en fait, ce qui est primordial, quand peu importe le mode de garde pour lequel tu optes, c'est de sensibiliser les gens. C'était des sujets qui sont difficiles à aborder, mais de dire par exemple, écoutez, on peut servir de la presse, on peut servir d'Instagram, de ce qu'on veut, mais écoutez, je voulais en parler avec vous parce que j'ai vu beaucoup trop d'histoires en fait, de bébés qui ont été secoués, vraisemblablement pas secoués par des personnes qui étaient des monstres à la base, hein, parce qu'en tant que parent de victime, c'est dur de le dire, mais c'est quand même vrai, hein, c'est monsieur, madame, tout le monde, parce qu'il n'y a pas de portrait robotique de secoueur qui un jour passe à l'acte. Donc de dire, je vous accuse de rien du tout, je vous connais pas, par contre, moi c'est important, je veux savoir auprès de qui je laisse mon bébé. Qu'est-ce que vous faites, vous, si jamais mon bébé pleure trop, si jamais vous vous sentez dépassé? Ça peut être des questions comme ça, ou alors de dire, écoutez, de toute façon, je vous confie la vie de mon enfant, hein, vous allez le nourrir, vous allez le changer, mais je vous confie aussi sa jeune vie, pendant que moi je suis pas là, vous allez prendre mon rôle quelque part, hein, notamment quand il s'agit d'une assistante maternelle ou d'un assistant maternel, il prend notre place quelque part, c'est violent en plus pour les parents d'imaginer ça. Et du coup, de dire, moi, je compte sur vous pour que si jamais c'est trop compliqué, si jamais c'est trop dur, au-delà d'une question de contrat de travail, d'une question d'argent, de rémunération et tout, dites-le-moi. Si vous n'avez pas le feeling avec mon bébé, parce que ça passe pas, parce qu'il est trop, il vous semble trop compliqué, surtout dites-le-moi, c'est pas grave. Parce que si tu veux, moi, c'est ma culpabilité aujourd'hui, c'est de me dire, moi, je pensais à mon boulot. Je pensais à mon boulot, j'avais laissé mon fils à un endroit où je le sentais bien. Puis, de toute façon, j'avais besoin de cette garde, sinon je pouvais pas retourner travailler, ramener de l'argent à la maison. Enfin, voilà, les problématiques de tout le monde quand t'as pas de problème plus grave, on va dire. Et en fait, quand j'ai pu échanger avec la personne qui gardait mon fils avant tout ça, j'ai senti, en fait, qu'il y avait quelque chose de compliqué. Parce que mon fils pleurait beaucoup, parce qu'elle trouvait qu'il demandait trop les bras, ou ce genre de choses. Et moi, tout de suite, je me suis dit, et j'ai retrouvé plus tard des SMS où j'en parlais à ma mère, je me suis dit, oh là là, va me péter le contrat, je vais plus avoir de garde, comment je vais faire? J'ai pensé à ça, en fait. Comment je vais faire? Qui va me garder Erwan pour que je puisse aller travailler et ramener de l'argent? Et en fait, je pense que sans tomber dans le mélodramatique, pour pas non plus que chaque parent s'encombre la vie de choses comme ça, d'histoires qui sont lourdes, je pense qu'il faut aussi mettre cette partie technique un peu, on va dire, de côté et tout le temps parler avec la personne qui garde notre enfant. Du dire, alors, ah oui, t'as fait une colère aujourd'hui, t'as réagi comment? Pas avec un côté inspecteur qui veut interroger, mais juste pour être sûr que nous, on sait qu'on n'est pas parfait, on sait que la personne avec qui on va laisser notre enfant n'est pas parfaite, mais de toujours communiquer et dialoguer, de lui dire, par contre, tu peux ou vous pouvez me le dire, si c'est compliqué, il n'y a pas de souci, je l'entends, on fera autrement, ou alors moi-même, je choisirai un autre mode de garde. Et ça, pour en avoir beaucoup parlé avec d'autres parents, notamment via Instagram, quand on me sollicite qu'on me pose des questions, moi je suis pas du tout une bonne recruteuse d'ASMAT, sinon je pense que je serais pas aujourd'hui en train de répondre à toutes tes questions. Mais par contre, une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une question de feeling et de confiance. Peu importe pourquoi demain, que ce soit dans une crèche ou chez une assistante maternelle, vous avez la moindre gêne, un truc qui vous plaît pas mais que vous n'arrivez pas à expliquer, peu importe ce qu'en pense l'autre parent, parce que ça c'est un truc que j'entends souvent aussi, hein, des mamans qui avaient signalé des choses au mari, puis les maris, mais non, tu te fais un film, puis en fait il se passe des choses graves. Ça peut être une claque, ça peut être plus de choses, ou il y a eu des victimes du syndrome du bébé secoué comme ça. C'est de toujours s'écouter. Ça c'est la base de tout, les mamans doivent s'écouter. Après, on se connaît aussi en tant que femme, on sait si on est une mère hyper flippée ou pas, donc on met aussi un peu d'eau dans notre vin. Mais il faut que le feeling passe, et si on n'est pas en confiance, c'est pas grave, faut en changer.
Et alors, comment va Erwan aujourd'hui? Il a 2 ans, le petit chou?
Oui, il a 2 ans. C'est une boule de vie. J'adore dire ça parce que quand tu penses que tu as failli perdre ton gosse et qu'après tu te dis c'est une boule de vie, c'est une belle revanche. Et il va plutôt bien dans l'ensemble. Alors, comme toutes les victimes du syndrome du bébé secoué, il a des lésions du cerveau. Dans un premier temps, il a récupéré beaucoup de facultés, on va dire. L'œil qui était bloqué est revenu à lui. Il avait perdu une partie de l'audition, c'est revenu. Par contre, on dénote déjà quelques troubles liés à son comportement, ou des troubles. Alors, on ne pourra pas dire intellectuel à 2 ans parce qu'il est encore trop petit, mais la crèche dans laquelle il est gardé maintenant nous donne justement quelques petites pistes à exploiter vis-à-vis de choses qui sont pas forcément pas adaptées pour son âge, mais voilà, des points de vigilance. Là, on a fait un suivi parce que tu as des suivis au CHU réguliers. Donc, Erwan, sa dérivation interne a été retirée 6 mois après qu'elle ait été posée. Donc, il a les cicatrices sur le corps, mais il n'a plus de matériel interne aujourd'hui. Mais du coup, tu dois vérifier l'évolution. Il a plein de tests. Alors, ça m'échappe un peu le vocabulaire et tout par rapport à ça. Mais il va bien. Je sais pas. Il y a certaines choses, si tu veux, où on se dit, est-ce qu'il n'aurait pas été comme ça, même s'il n'avait pas été secoué? Tu vois, ça, c'est compliqué aussi, hein, de te dire, est-ce que c'est dû au secouement, le fait qu'il soit comme ci, comme ça? Est-ce que c'est dû au fait que nous, on est tellement traumatisés en tant que parents, qu'on a laissé faire plein de choses, donc on ne lui a peut-être pas donné des bonnes habitudes, j'en sais rien. Nous, tout ce qui nous importe, c'est d'être heureux tous ensemble. Donc, j'ai envie de te dire que les horaires de coucher, tout ça, nous, on s'en fout. Enfin, on vit simplement, on ne se prend pas la tête. Enfin, on essaye de ne pas se prendre la tête, tout du moins, parce qu'on a ce sujet compliqué. Et par contre, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, Erwan, il va bien, mais ça ne veut pas dire que demain, il ira bien. La plupart des enfants, quand ils rentrent à l'école, déjà, c'est là où on commence en fait à dénoter beaucoup de retard. En fait, quand le cerveau est touché, tu te rends compte qu'il y a des séquelles intellectuelles, des séquelles comportementales, tu as des séquelles visuelles aussi. Donc certains enfants perdent la vue très rapidement, mais d'autres peuvent la perdre en fait à mesure qu'ils grandissent. Que ce soit juste une grosse correction avec des lunettes fortes, ou ça peut aller jusqu'à la cécité complète. Et après, tu as des séquelles motrices. Ça va être des tremblements ou des enfants qui ont du mal à faire des choses de motricité fine. C'est pour ça aussi que les psychomotriciens nous aident. Et puis, bah, finalement, chaque enfant qui est rentré à l'école, c'est ce qu'on constate en tout cas au sein des enfants qui sont dans l'association Tatiana, bah, finalement, l'épilepsie commence à arriver. Les enfants sont en retard par rapport à leurs camarades. Alors ça, c'est pas très très grave, mais par contre, des fois, leur comportement est tellement pas adapté que bah, les maîtresses ne savent pas comment réagir. T'as besoin d'AVS, mais du coup, il n'y en a pas toujours...
Des assistantes.
Voilà, des assistantes. Il n'y en a pas toujours de disponibles et puis bah, c'est compliqué. Puis bah, certains enfants sont obligés d'être déscolarisés. Tu dois les mettre du coup dans des IME ou dans des centres comme ça qui sont plus adaptés pour eux. Donc en fait, bah, du coup, tu te dis, bah, aujourd'hui ton gamin il va bien, donc on t'a dit qu'il allait mourir, il est vivant. On t'a toujours dit qu'il serait handicapé, mais qu'on savait pas comment. Le terme handicapé, c'est violent. Surtout quand un bébé de 6 mois qui allait très bien à la base, c'est des mots qui percutent. Tu te dis, bon, bah, écoute. Comme plein de gens, et c'est très con les mentalités comme ça, mais tu te dis handicapé, bah c'est lourd, tu vois, c'est des fauteuils roulants, c'est tout ça. Et justement, c'est des idées reçues que j'essaye de combattre, c'est qu'en fait, des handicaps, il y en a plein. Et ce qui est très sournois avec le syndrome du bébé secoué, c'est que ce sont des handicaps invisibles. En fait, tu sais pas, ils ont une hypersensibilité, ça, tous les enfants l'ont. Est-ce que c'est leur histoire? Est-ce que c'est vraiment le cerveau? Ça, même certains psychologues ont du mal à en parler encore, à te dire de sources sûres, mais ils sont hypersensibles, ils sont en décalage. Ils sont en décalage, ils font beaucoup de crises de colère, ça revient souvent. Les colères dans la gestion de leurs émotions, c'est très compliqué. Certains enfants se font eux-mêmes du mal. Donc, alors, t'as plein d'enfants qui, par exemple, vont se cogner la tête, vont faire des choses comme ça, je sais pas à quoi c'est dû. Par contre, les victimes du syndrome du bébé secoué, ils évoluent différemment, mais tous ont ça en commun, des retards d'apprentissage, de l'hypersensibilité et le fait de se faire du mal.
Donc, tu dois suivre l'évolution au jour le jour.
Ouais. T'as un suivi médical avec le CHU. Ensuite, forcément, quand tu rencontres le pédiatre, notamment encore à cet âge-là, bah, il est un peu plus vigilant. Après, par contre, bah, encore une fois, t'es livré à toi-même. C'est que t'as aucun professionnel de santé qui est vraiment apte à suivre un enfant dont le cerveau a été touché. Alors, peut-être dans certaines villes, peut-être qu'en région parisienne, c'est mieux. Mais en tout cas, pour nous tous en province, on s'en rend compte, c'est compliqué. T'as du mal quand il s'agit d'épilepsie et que tu trouves pas de traitement qui permet de stabiliser l'épilepsie, bah du coup t'es obligé de tout planter et puis d'aller en région parisienne ou notamment à Necker pour aller voir des médecins. Quand les enfants ont besoin d'aller en IME, bah des IME t'en as pas partout, donc beaucoup de gens sont obligés de déménager, de tout quitter pour accompagner leur gamin. Enfin, c'est lourd, ce sont des frais médicaux en plus extrêmement élevés. Et puis bah, comme les enquêtes judiciaires sont longues, les enfants n'ont pas toujours le statut de victime, donc ne sont pas indemnisés non plus à hauteur de leur préjudice corporel. Ça, c'est compliqué.
Et aujourd'hui, ça en est où, justement, de l'affaire judiciaire d'Erwan?
Bah écoute, aujourd'hui, ça stagne. C'est extrêmement long, les affaires judiciaires. Alors, en tout cas, bon, ça l'est de base, mais dans les affaires de syndrome du bébé secoué, quand t'as la chance d'avoir un procès, parce que c'est très rare aussi, faut attendre en moyenne 5-6 ans, déjà. Donc, c'est compliqué. Ça, c'est quand t'as eu la chance d'avoir des aveux ou quand il y a des... Il n'y a pas de preuves, mais des éléments d'enquête vraiment probants qui tendent à penser que c'est X, Y ou Z au niveau du coupable. Et nous, en fait, à notre niveau, On a en plus dû subir d'autres choses, c'est qu'il y a eu des changements de magistrats au niveau du parquet de la ville où on habite. Et en fait, ils ont décidé de reprendre le dossier dès le début, mais 8 mois après, ou 6 mois après, quelque chose comme ça. Nous, pendant ce temps-là, on avait récupéré notre enfant, on avait envie d'avancer, on appelait souvent la brigade des mineurs qui n'avaient pas d'infos. Et puis, on a décidé de préparer le baptême d'Erwan. Ça tombait le jour de mes 30 ans, et avec mon mari, on s'est dit, tu sais quoi, on va passer à la mairie, juste avec tes parents, mes parents, nos frères et sœurs, puis on va se marier. Parce que c'était dur ce qu'on a vécu, on en avait parlé déjà à l'hôpital, j'étais pas du tout pour le mariage avant, et quand Erwan était sorti d'affaires, je me rappelle, je les ai embrassés, et je leur ai dit, quand tout ça ce sera fini, je veux porter le même nom que vous. Ça a commencé comme ça. Donc, en fait, les psychologues nous avaient dit, faites un truc bien pendant l'attente, parce que ça va être long, nourrissez-vous d'amour. On nous avait dit de déménager, changer de région, mais nous, pas du tout question. Enfin, on est d'ici, nos proches sont ici, on n'allait pas partir à cause d'un truc qu'on subissait déjà.
Vous avez quand même déménagé
Alors, on a déménagé depuis, mais on s'est éloigné d'une vingtaine de kilomètres. Mmh. Voilà, pour pas partir trop loin, pour pas être trop chamboulé. En plus, c'est beaucoup de conséquences, parce que du coup, ça nous fait nous éloigner aussi de l'école du Grand. Donc d'arrêter la garde alternée, on ne le voit plus qu'un week-end sur deux. Donc c'est beaucoup de choses qu'il a fallu égoïstement prendre comme décision pour nous reconstruire. Alors on se fait toujours du mal, parce qu'on voit moins le grand. Enfin voilà, de toute façon, ta vie après le syndrome du bébé secoué, elle est toujours difficile. T'attends aussi parce que tu te dis, à tout moment, l'affaire, elle peut reprendre. Et donc ça a été le cas parce que je me mariais le samedi et le jeudi, ils sont venus toquer à ma porte deux monsieur habillés en civil. Donc j'avais Erwan dans les bras un matin. Ils se sont présentés comme des inspecteurs. Et m'avait des papiers à nous donner à mon mari et à moi. Donc moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que j'ai serré fort Erwan contre moi. Je me suis dit, on va me reprendre mon enfant. Puis c'est chez toi, c'est intime. Enfin, ouais. Ça s'était encore jamais passé comme ça. Et en fait, on venait de nous remettre en main propre des convocations. Et puis, ils ont été assez mignons. Je sais pas si je pourrais dire ça comme ça, mais si c'était quand même gentil de leur part. C'est que quand j'ai dit que nous, on se mariait ce week-end, il y avait le baptême d'Erwan et mes 30 ans, alors eux, stupéfaits, ils m'ont dit, mais c'est lui le petit qui a été victime? Bah oui, c'est lui, avec ses grands yeux bleus, son grand sourire. Quand on le voit comme ça, on peut pas imaginer ce qui lui est arrivé, surtout que les cheveux repoussés, tu ne vois plus les cicatrices. Visuellement, ça interpelle pas, quoi. Et on dit, oui, on veut célébrer l'amour avec tout ce qu'on a vécu. Ils nous ont dit, d'accord. Et du coup, ils ont décalé la date où on aurait dû être auditionné. Et le monsieur, avant de partir, m'a dit, prévoyez de faire garder vos enfants pour une durée indéterminée. Ah. Et là, du coup, je me suis dit, oh mon Dieu, il va y avoir de la garde à vue, c'est sûr. Alors moi, ça m'impressionnait. Hein. C'est forcément, tu sais pas comment ça se passe, ça part à la télé dans les films. Tu dis comment ça va se passer. En plus, du coup, avec tout ce que je vivais de manière compliquée, je fumais et beaucoup plus que ce que j'aurais dû. Je me suis dit, oh, je vais être enfermée sans mon fils, je vais pas pouvoir fumer, ça va être horrible. Mais je me suis dit, de toute façon, je me suis toujours dit, je subirai tout ce qu'il faut subir pour Erwan, pour lui obtenir justice. J'ai toujours dit, faites-moi du mal autant que vous voulez. Si on arrive en fait à aller au bout de cette histoire judiciaire, on ira, on le fera, pas de souci. Un peu la rage qu'on vienne me foutre en l'air mon mariage et tout ça. Mais du coup, je me suis dit, attends un peu avant d'en parler à ton mari, en parle pas à tout le monde, et puis surtout, savoure ton week-end. Donc mon mari l'a su avant qu'on se marie quand même, et on a décidé tous les deux de faire abstraction de tout ça. On a passé un week-end magique, et heureusement, dans notre fête, on avait tout prévu pour Erwan, parce que comme on est encore suivi par les services sociaux, s'il y a garde à vue, on replace ton enfant en fait. Si les deux parents sont en garde à vue, c'est de leur responsabilité que de placer l'enfant, et là, de toute façon, pas le choix, c'est famille d'accueil, puisque ce sont des accueils temporaires, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est en moyenne 48 heures. Moi, je me suis dit, mais hors de question, on va arrêter de traumatiser mon gosse. Donc du coup, on avait déjà fait une demande pour que mes parents soient désignés tiers dignes de confiance. Et à l'époque de la pouponnière, ça avait été refusé. Sauf que là, ça a été accepté. Donc moi, déjà, j'étais rassurée de laisser mon fils chez mes parents. Mais en plus, légalement, aux yeux de l'État, ils avaient cette casquette de tiers dignes de confiance. Et puis, on est partis tous les deux avec mon mari se rendre dans les locaux de la police. Sur la route, il me disait, tiens, on mangerait bien des œufs ce soir. Moi, je regardais dehors, il faisait beau ce jour-là, je rigolais toute seule. Alors, je rigolais. C'était très partagé, en fait. Je savais qu'en fait, c'était une nouvelle étape dans notre vie. J'espérais qu'on allait apprendre peut-être qu'il y avait eu des aveux, tout en sachant qu'il y avait de grandes chances qu'on reste là-bas, alors je savais pas combien de temps. Et je lui disais oui. Et en fait, je rigolais toute seule parce que je me suis dit, en fait, il a toujours pas compris. Et puis, ça s'est fait très rapidement. T'arrives à 14h, à 14h05, on te lit tes droits, on te dit que commence la garde à vue. Tu demandes du coup au moins à prévenir ta famille. Et puis, après, là, ça a été 26 heures de garde à vue. Tous les deux. Alors, tous les deux, non, pas ensemble. Ils ont été... le soir, en fait, ils ont changé mon mari de place pour qu'il vienne dans une cellule à côté de la mienne. dans la nuit, c'était interminable. Tu tapes dans les murs en béton pour te donner un petit... du réconfort, quoi. Mon mari s'inquiétait beaucoup. Lui, ça le tracassait pas, la garde à vue. Il m'a dit, tu sais quoi, on va se faire chier. Mais il m'avait dit à l'avance, tu sais quoi, dors pas beaucoup. Comme ça, sur place, tu seras fatiguée. Il m'a dit, pour la cigarette, pense à autre chose. Et en fait, il essayait de me... Oui, parce qu'il connaissait. Il connaissait aussi pour des petites choses pas graves de son adolescence, mais quand même. Et moi, pas du tout. Il m'avait même dit, même si t'as froid parce qu'il fait pas très chaud, la couverture, tu la prends pas. C'est des couvertures qui grattent, elles sont sales. Alors, tu sais, en tant que femme, tu te dis, oh mon Dieu, déjà les conditions dans lesquelles tu y es, enfin, je préfère en rire, mais c'est extrêmement grave, c'est lourd. Mais bon, tu sais que ton gamin, il est dans ta famille, tu sais qu'il est entre de bonnes mains. Lui, ton gamin, tu lui as fait croire qu'il dormait chez papy et mamie. Il a pas besoin de savoir tout ce que toi tu vis pour lui, enfin, pour lui, pour sa justice. Et puis, ouais, c'est violent parce qu'en fait, finalement, t'es 26 heures enfermée là-bas, alors que seulement pendant 4 heures, t'es interrogée, quoi. Donc, alors que moi je leur disais, mais attendez, me laissez pas pourrir ici, j'ai plein de choses à vous dire. En plus, là tu te rends compte, et c'est flagrant, que t'es confronté à des personnes qui représentent la justice, mais qui ne connaissent pas le syndrome du bébé secoué. Donc on a passé une nuit là-bas, on est rentré à 14h, on est ressorti le lendemain vers 16h, et quand ils m'ont interrogé, en fait, si tu veux, j'étais hyper froide parce que je me disais, mais putain, j'ai en face de moi des gens qui ne maîtrisent pas le sujet. Vous voulez pas qu'on change de place, qu'on change... Qu'est-ce que vous venez m'interroger, moi, d'un sujet que vous maîtrisez pas? C'est moi qui leur donnais de l'information. Et en fait, ce qui était assez rigolo, c'est que le lendemain, quand ils m'ont interrogé, alors ils m'ont fait un café, ils ont été assez sympas. Après un moment d'horreur, j'ai eu mon petit café. Et en fait, je leur ai fait la remarque, ils s'étaient renseignés, ils s'étaient documentés dans l'entrefaite, parce que les questions étaient plus les mêmes. Certaines choses que je leur ai dit, je voyais que ça y est, ils avançaient sur le sujet. Et en fait, je leur ai même fait la remarque, mais je leur ai dit, mais c'est ça qui est flagrant en France aussi. C'est que vous faites des enquêtes pour trouver des coupables, vous ne connaissez pas le sujet. Des magistrats voient passer des dossiers et ne connaissent pas le sujet. Donc depuis, on a également des avocats qui sont devenus bénévoles dans l'association et on parle de tout ça. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui est tellement méconnu que comment veux-tu qu'il y ait une bonne prévention? Comment veux-tu que les coupables soient punis comme il faudrait l'être? Parce que personne ne comprend qu'il s'agit d'un acte très grave, d'une maltraitance. Enfin voilà, c'est hyper compliqué en fait que tous les gens qui gravitent dans le milieu médical, dans le milieu social ou dans le milieu judiciaire ne maîtrisent pas un sujet aussi important. Du coup, t'es mal informé ou du coup, après, c'est moins bien sanctionné également.
Et donc l'enquête est toujours en cours?
Ouais, c'est en cours et je pense que ça va l'être pendant longtemps parce qu'on sent que l'affaire va être classée sans suite, comme ça arrive très 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 souvent. Pourquoi? Parce qu'Erwan va très bien, parce qu'il n'y a pas eu d'aveu. Parce que du coup, les expertises médicales, elles sont pas très claires. On sait qu'Arwan a eu deux secouements, mais si tu pouvais savoir tel jour à telle heure, là, tu pourrais dire, voilà qui le gardait à ce moment-là. Mais du coup, ça, tu sais pas. Nous, la brigade des mineurs nous a dit plein de fois, mais faites une contre-expertise. Oui, ça coûte 2 500 € de ta poche et t'attends encore 18 mois. Donc, dans les débuts, j'étais la première à me dire, de toute façon, je m'endetterai s'il le faut, mais je le ferai. Enfin, voilà, plein de gens tiennent un discours en fait, qui est propre à chacun et que nous, on a décidé de se dire, notre vie, elle a déjà été transformée à tout jamais avec le syndrome du bébé secoué. Tu vois, je sais pas si j'arriverai à avoir un jour un autre enfant sans être complètement hystérique sur lui. Enfin voilà, donc du coup, c'est des questions que je laisse de côté. Ça nous a déjà coûté énormément d'argent parce qu'au bout de... Voilà, ça fait 18 mois que c'est arrivé, on est déjà à plus de 4 000 € de frais d'avocat. Tu changes d'avocat parce qu'aussi, tu tombes sur des personnes un peu scrupuleuses. Enfin, c'est compliqué. Et on s'est dit, mais attends, on veut quoi, nous, en fait? On veut graviter là-dedans, dans le syndrome du bébé secoué, toute notre vie et jamais s'en remettre? Ou alors on veut passer à autre chose? Alors ça va te paraître totalement paradoxal avec le fait que je suis bénévole et que je fais beaucoup de prévention, sauf que ça, c'est ma thérapie personnelle. Mon mari, il sait ce que je fais. Il m'écoute de temps en temps, si c'est à la radio ou quoi, mais tu vois, il n'est même pas Instagram. Et je lui parle de temps en temps parce que j'ai besoin aussi de lui dire, tu vois, je suis contente parce que aujourd'hui, j'ai eu tel retour. Une maman qui m'a dit, grâce à vous, ceci. Et moi, c'est con, mais ça me nourrit. Je me dis, je veux pas graviter dans le milieu grave de ce qui est arrivé à Erwan. Par contre, je veux me servir de ça pour prêcher une parole de prévention, pour mettre des actions en place, pour faire plein de choses. Et je dissocie tout ça. Mon fils à la maison, j'essaye au maximum de me dire, c'est terminé, je veux plus parler du syndrome du bébé secoué à la maison. Je veux plus que chaque chose qu'il fait soit due à ça ou que je m'inquiète. Parce que, de toute façon, la peur évite pas le danger. Donc du coup, on essaie vraiment de faire ça. Puis moi, à côté, dans ma vie de femme, je m'accorde du temps pour écrire, je m'accorde du temps, comme aujourd'hui, je fais des choses comme ça, en fait, pour prévenir, à informer un maximum de personnes et qu'on protège tous ensemble des enfants, quoi.
Alors, on va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman rouennaise?
Une maman rouennaise, c'est quoi? Écoute, c'est une maman qui habite pas loin de la mer, mais qui a la pluie quasiment un jour sur deux. C'est une maman qui a la chance d'être pas très loin de Paris, donc qui peut quand même faire pas mal de choses. Et puis, c'est une maman aussi, moi je le vis comme ça, c'est une maman qui est dans son élément, qui est près de sa famille. Et qu'être une maman, quand t'es bien entourée comme ça, c'est juste la meilleure chose que tu puisses avoir pour toi et aussi pour tes proches, pour faire partager tout ça, de voir évoluer ton enfant au sein d'une famille dans laquelle t'as toi-même grandi, voir à quel point ça resserre les liens et à quel point c'est beau, en fait, de voir que ton enfant crée ses propres affinités avec chaque personne que tu aimes. Donc je resterai une maman rouennaise toute ma vie. Là où sera ma famille, je serai.
Est-ce que tu as un endroit kids-friendly à Rouen ?
Ouais, les quais de Rouen. C'est un endroit très sympa. Ça a été aménagé en plus récemment. Tu peux y faire de belles balades. Tu peux t'arrêter boire des verres entre copines. Tu peux t'arrêter avec les enfants parce qu'il y a aussi des jeux, etc. Et c'est un endroit qui est très, très, très sympa. Et tu peux retrouver beaucoup en photo. Quand tu cherches des informations sur Rouen, généralement, on te fait voir la Seine et donc les quais. Et c'est vraiment un endroit convivial, un endroit où il fait bon se balader et bon se poser.
Et quels sont tes projets pour toi et ceux prévus en famille ?
Eh bien écoute, c'est en train de voir le jour parce que faire des projets, ça a été longtemps compliqué. T'apprends à vivre au jour le jour en fait. Et puis là, Erwan a eu 2 ans. Moi, j'ai repris le travail après un long arrêt maladie. Et puis en fait, je me rends compte que je ne suis plus du tout la même femme, que la carrière que j'avais depuis une dizaine d'années, elle n'est plus du tout adaptée. Donc là, en fait, je quitte mon travail très prochainement. Je vais m'accorder du temps pour mon fils, en fait, pour être disponible, pour l'emmener. Alors, je veux qu'il reste à la crèche parce qu'il a besoin d'être stimulé de toute façon, mais je veux m'accorder aussi du temps pour moi parce que je ne l'ai pas fait depuis très longtemps. Déjà, je pense que les mamans de base, tu n'as pas beaucoup de temps pour toi. Et là, je me dis, il est temps que je me pose et de me dire qu'est-ce que je fais avec le syndrome du bébé secoué. Je reste toujours dans cette dynamique positive, mais je veux mener des actions plus importantes. J'aimerais aussi, pourquoi pas, à terme aussi être rémunérée pour tout ce travail que je fournis. Aujourd'hui, je fais du bénévolat pour une association, mais je me dis demain, pourquoi pas tenir des conférences un peu partout en France, informer, pas former parce que je n'ai pas de formation dans ce domaine-là, mais informer. Et puis surtout, être heureux, c'est ce qu'on se dit tout le temps. On n'a pas de projet, tu vois, comme beaucoup de familles, mais nous, voilà, on a déménagé il n'y a pas longtemps dans une maison qui est plus loin de nos souvenirs difficiles, une maison qui nous plaît. Et en fait, on prend les choses comme elles viennent, et puis c'est un peu un discours idyllique, parce qu'on est comme tout le monde, hein, c'est jamais facile. Donc on veut se reconstruire individuellement, reconstruire la famille. Et puis même si tout tournait autour d'Erwan, on se dit là ça y est, on existe aussi en tant que personne, notre couple existe. Donc là tu vois, on va justement aller, notre futur projet c'est de fêter nos 1 an de mariage qui arrive très bientôt. Donc on laisse Erwan à papy et mamie et on s'en va tous les deux sur les côtes normandes, profiter de la vie, profiter de cette chance qu'on a et qu'on savoure pleinement d'être heureux et tous ensemble quoi.
Merci beaucoup Marie.
Je t'en prie, merci à toi.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Marie, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 20 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode!